Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport. Où est-ce qu'on geek sur le sport? Je pense que c'est bon comme tagline, ça. Écrivez-moi si vous l'avez aimé. Moi, je trouve qu'elle a bien roulé en bouche. Cette semaine, on reçoit David Gagnon sur le podcast. C'est un podcast un peu différent des autres parce que David n'est pas un athlète élite, même si c'est un gars super en forme, probablement un athlète dans le 1% des athlètes sur la planète, mais je pense pas qu'il se décrirait comme un athlète élite. David, en fait, c'est le chum, agent, mécano, logisticien, si c'est un mot qui existe, je pense pas que c'est un mot qui existe, de Magali Rochette qu'on a reçu sur le podcast v'là quelques épisodes, plusieurs mois maintenant. David, il a pris avec Magali, en fait, ils ont décidé de se lancer dans une aventure qui est de devenir leur propre équipe. Donc, David gère un petit peu le back-end de ça. Donc, c'est le coach aussi de Magali. Il coach Magali, mais aussi l'appui dans comment devenir un athlète professionnel indépendant. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis c'est pour ça que je voulais parler à David, justement pour développer sur cet aspect-là. Parce que moi, ayant fait beaucoup de natation élite par le passé, le financement des sports dits amateurs est vraiment compliqué. Même si tu es d'extrême haut niveau, on en a parlé avec Elliot Cardin la semaine passée, ou v'là deux épisodes, pardon. Même si tu es de très très haut niveau, d'essayer de faire du sport ta profession, ça devient vraiment difficile. Moi personnellement, quand je nageais, j'ai jamais gagné ma vie avec ça. Mes meilleures années en termes de bourse puis de financement, j'arrivais à zéro à la fin de l'année. Une fois que tu enlèves toutes les compétitions, tous les frais de camp d'entraînement, les frais d'équipement, toutes ces choses-là, si tu arrives à zéro, c'est déjà très, très bon. Fait qu'on a essayé d'explorer avec David, en fait, quelles étaient les options pour les athlètes pour pouvoir vivre de leur passion, de ce sport-là, sans nécessairement être obligé d'être Michael Phelps ou, tu sais, des athlètes vraiment uniques. À titre d'exemple, moi, depuis que j'ai un plus grand following sur les réseaux sociaux puis que je partage mon parcours de coureur, ben, je fais plus d'argent maintenant avec la course à pied que j'en ai jamais fait avec la natation à l'époque, alors que mon niveau est loin, 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 loin d'être élite à course à pied. Parce que je suis capable d'offrir, grâce à ma tribune, grâce à la façon avec laquelle je le fais, un plus-value pour les entreprises qui veulent collaborer avec moi. Ou qui voulaient collaborer avec moi. Maintenant, je fais moins de publicité sur mon compte personnel grâce à Upika, en fait. Je préfère faire la promotion d'Upika que d'autres compagnies. Ça, c'est un autre dossier. Mais avec David, on discute qu'est-ce que le plus value, qu'est-ce qu'un athlète peut donner aux compagnies, qu'est-ce qu'un athlète peut faire dans les codes qu'on a aujourd'hui de réseaux sociaux, d'Internet, de marketing 360, pour être capable de générer, autant pour les compagnies que pour les athlètes, un profit. Parce que c'est le name of the game, tu ne peux pas être un athlète professionnel s'il n'y a pas de profit au bout pour quelqu'un. Okay? On vit dans cette société-là. Faut qu'au bout de l'histoire, ce soit un partenariat qui est bénéfique aux deux parties. L'exemple de Upika en est un bon, puis je vais le prendre, puis moi, je vais donner mon point de vue de compagnie. Si je suis pour sponsoriser quelqu'un, évidemment que je veux rentrer dans mon investissement parce que sinon, ça fait pas beaucoup de sens. Je veux, avec tout mon cœur, aider les athlètes à atteindre leurs objectifs, à participer à des compétitions internationales, éventuellement. Là, pour l'instant, je suis encore en démarrage, mais c'est ça mon objectif. Par contre, faut qu'il y ait un retour sur investissement pour moi. Puis le retour sur investissement, des fois, c'est pas gagner une course puis avoir le sponsor sur le gilet. Des fois, c'est de montrer son parcours, même si tu as une contre-performance, tu arrives 10e. Si les gens t'ont suivi, ont vu que tu utilisais mon produit, ont réussi à te suivre dans tes entraînements, le résultat importe beaucoup moins que l'histoire que tu racontes avec mon brand dans ton histoire. Ça, c'est mon point de vue du côté du Pika, puis de mon côté aussi de créateur de contenu sur Instagram. Mais avec David, on développe un petit peu sur ça. Pour l'histoire, David, on s'est connu il y a quand même longtemps. Dans le fond, lui, il est venu à l'Université Laval, où est-ce qu'il faisait du triathlon, puis on nageait ensemble. Fait qu'on a passé beaucoup d'heures dans la piscine ensemble. Puis, puis là, bien évidemment, là, maintenant, il fait le tour du monde avec Magali, puis avec leur projet commun qui est la carrière de Magali, non pas juste d'un point de vue de performance, mais d'un point de vue aussi de longévité. Puis comment faire de cette passion-là une source de revenus, certes, mais une source de passion qui va durer dans le temps. C'est de ça qu'on parle. On parle un petit peu de coaching, évidemment, on parle de sport. Vous allez voir, c'est super intéressant. Puis David, tu sais, David, il l'a fait, là. Tu sais, c'est pas comme si il parlait à travers son chapeau. En ce moment, il vit de la carrière de cycliste, de cyclocross de Magali. Puis je pense que c'est une réflexion extrêmement intéressante à amener à cette ère où est-ce que le contenu est maître. Ça, c'est la clé. Le contenu, c'est la chose la plus importante. Le plus value, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que vous allez offrir aux gens qui vous suivent? C'est bien beau voir une photo d'un produit. C'est pas assez la plupart du temps. Fait que, écoutez, juste un petit mot, en fait, avant de vous laisser sur la conversation, sur les produits Upica qui sont maintenant back in stock. Peut-être que je pourrais utiliser ce podcast-là, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, là, ou écrivez-moi en privé, là. C'est vraiment un laboratoire, ce podcast-là. Peut-être que je pourrais parler un petit peu aussi, tu sais, de l'aspect entrepreneurial derrière Upica. Bref, on s'est fait prendre les culottes à terre, littéralement, avec la chaîne d'approvisionnement. On pensait qu'il allait avoir un délai de 6 semaines avant de pouvoir réavoir notre stock. Finalement, il y a eu un délai de 12 semaines. Fait qu'on a été back-order pendant comme 3 semaines à devoir gérer ça. On a fermé le site web, chose qui est vraiment jamais le fun à faire. Mais on a dû le faire. Puis là, ben, on est back in stock. Inventaire complet. On a les Upica Endurance, citron lime, Upica Endurance, punch aux fruits, Upica Endurance, framboise bleue, la nouvelle saveur, moi je la trouve incroyable. Puis on a le Upica Endurance Plus, qui est la même formule que l'Upica Endurance, mais avec 100 mg de caféine de plus au melon d'eau. Upica Endurance, c'est le tout en un pour vos sports d'endurance. 25 g de glucides par portion, 300 mg de sodium, des électrolytes à profusion, de la taurine pour la thermorégulation, création d'énergie, vitamines B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles. Un scoop dans 500 ml d'eau, 500 à 600 ml d'eau. Puis vous allez honnêtement voir la différence. Les retours que j'ai sont 100% positifs. Tout le monde trippe, tout le monde qui l'essaye l'adopte. Fait que utilisez le code promo UPICAPOD, POD 10, UPICAPOD 10 pour 10% de rabais sur votre première commande. Puis sautez là-dessus, le stock, on en a à profusion, on a des nouvelles gourdes, on a des échantillons, on a tout ce que vous voulez. Fait que allez voir sur le site upica.ca, utilisez le code UPICAPOD10 pour 10% de rabais sur votre première commande. Maintenant, je vous remercie beaucoup. J'ai parlé beaucoup, mais je pense que ça va être un petit peu ça, par exemple, le Upica Podcast. Je vais de plus en plus essayer de mixer un genre d'éditorial personnel avec la conversation. Encore une fois, comme je dis, c'est un laboratoire vivant. Dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-moi un message privé, ça va me faire plaisir. Puis, pendant que vous écoutez, là, vous êtes rendu loin quand même dans l'intro. Là, si vous écoutez ça, c'est que vous voulez, vous attendez avec impatience la conversation avec David. Laissez un rating 5 étoiles sur le podcast, autant sur Spotify que sur Apple Podcast. Abonnez-vous sur YouTube si vous êtes sur YouTube. Ça fait un monde de différence. Sur ce, bonne conversation avec David Gagnon. Dave, salut man!
Salut Pu!
Ça va bien?
Oui, toi?
Yes! Pu man,
ça fait combien d'années que quelqu'un t'a pas appelé Pu sur un podcast?
Sur un podcast, c'est jamais arrivé.
Et c'est une première.
That's... tu m'appelles Pu parce qu'on se connaît depuis vraiment longtemps.
Ouais.
C'est quand t'es arrivé? Toi, c'était Trois-Rivières que tu venais?
Moi, je viens de Montréal, mais j'étais à l'école à Trois-Rivières au secondaire. Puis après ça, j'ai déménagé à Québec.
En quelle année?
Pour le cégep. Je suis vraiment pas bon avec les années, mais dans le fond, là, j'ai 34 ans, puis c'est quand j'avais 18 ans, je pense.
Ouais.
Ça doit faire 16 ans,
peut-être. Ouais. Puis t'as déménagé à Québec, puis moi, j'étais là déjà.
Ouais.
Puis t'as déménagé pour le cégep?
Pour le sport-études triathlon, pour le, ouais, le Centre national de triathlon qui était à Québec dans ce temps-là.
Ouais, parce que toi, tu viens du triathlon.
Ouais.
Ouais. Puis d'habitude...
ça fait méchant bout, j'ai pas fait de triathlon.
Disons-le comme c'est.
C'est ça.
Parce que, tu sais, dans le podcast, on va... Le podcast Pika, je vais recevoir des athlètes, mais je reçois aussi des gens qui sont des anciens athlètes, puis des gens qui sont dans le milieu du sport at large sans être des athlètes professionnels. Sauf que la question que je veux poser à tout le monde, c'est quoi ta relation avec le sport aujourd'hui? Parce que t'étais triathlète élite, puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi ta relation avec le sport aujourd'hui?
Dans le fond, moi aujourd'hui, ma femme est une des meilleures cyclistes off-road au
qu'on
monde.
A reçu sur le podcast, que vous allez avoir écouté avant d'être en ici sûrement.
Exactement. Donc, je suis impliqué en tant qu'entraîneur, oui, mm-hmm. avec elle, avec d'autres athlètes aussi de haut niveau. Je suis aussi copropriétaire d'un centre d'entraînement, Centre Power Watts Nord à Boisbriand. Fait qu'on peut dire que je suis impliqué comme à titre d'entraîneur, mais à travers Magali, ben je suis aussi, si on veut, j'ai pas de titre officiel, là, mais agent, responsable, logistique, responsable d'inventaire, chauffeur, toutes les rôles.
Le gars
que
qui s'occupe de tout pour pas que Mag ait besoin de penser à quoi que ce soit qui est pas... L'entraînement puis la performance.
Ouais, tu sais, ultimement, nous, ce qu'on fait, là, d'habitude, tu vas avoir 2-3 staffs par coureur au minimum. Ouais. Tu vas avoir une équipe, genre 6-7 staffs, 2-3 coureurs. Nous, on le fait à deux.
Mm-hmm.
C'est notre formule, en fait. Fait que, moi, les rôles, je les ai tous. S'il faut, peu importe ce qu'il faut faire,
c'est toi qui le fais.
Pendant le COVID, je me suis transformé en massothérapeute pendant un an et demi, tu sais, parce qu'on pouvait pas aller voir personne. Fait que, mm-hmm. c'est ça.
Plus personnellement, peut-être, la place du sport dans ta vie, la pratique du sport dans ta vie. Est-ce que tu pratiques du sport en ce moment ou t'es comme trop dans...
Non, en fait, en ce moment, je m'entraîne 15-20 heures avec Mag, probablement l'année longue, sauf durant la saison de compétition. Quand on se met à voyager plus, ben là, je suis... À toutes les fois qu'on part en course du vendredi au dimanche, je jogue 20 minutes le matin quand j'ai le temps, c'est ça, quand ça fit. Mais je dirais qu'à l'année longue, je dois faire 10-12 heures de sport en moyenne peut-être par semaine. Ouais. Puis dans les périodes qu'on est stable à la maison, je fais encore un 15-20 heures de vélo, de course, de muscu. Je fais juste vraiment jamais de natation.
Ouais.
jamais de natation. C'est la seule affaire de mon passé sportif. Ma relation avec le sport, j'en ai une avec tous les sports presque sauf la natation. J'ai divorcé.
Ouais, t'as divorcé parce qu'on a nagé ensemble.
Ouais, mais j'étais poche.
Quand même, ouais, mais c'est pas. J'ai pas dit on a nagé au même niveau, mettons, mais on a nagé ensemble. On a nagé ensemble pendant quand même longtemps. Puis, est-ce que tu te mets dans le rouge des fois? Parce que, tu sais, moi, j'ai plus de la misère à me mettre dans le rouge, là, depuis que je fais plus de natation élite, mettons. Là.
Ouais,
je me mets dans le jaune foncé souvent. Dans le rouge, c'est rare que je me mette là-dedans.
Je te dirais que quand je m'entraîne avec Mag, j'essaie de jamais me ramasser dans le rouge foncé parce que...
Faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de...
Ben, c'est ça. Si elle est vraiment dans le rouge, moi, je veux être conscient de ce qui se passe puis je veux s'il faut ajouter l'entraînement, s'il y a du feedback à donner. Fait que souvent, en vélo, il y a beaucoup de drafting un peu. En natation aussi, mais plus en bike, il y a beaucoup de drafting. C'est derrière la personne, c'est un 30% plus facile. À poids égal, donc je suis un petit peu plus pesant qu'elle. Fait que souvent, moi, je vais faire les gros workouts dans sa roue. Fait que c'est un petit peu plus facile pour moi. Fait que je suis capable d'être en contrôle. Ça arrive une couple de fois dans l'année qu'il faut que je me mette dans le rouge solide. Ça arrive une couple de fois par année que je me fais dropper. Ça arrive une couple de fois par année que pour la challenger elle, au maximum, je m'amène dans le rouge. Mais tu sais, j'ai deux mains là, puis je pense pas qu'on dépense ça par année. Mettons tout seul là. Jamais, là, les fois qu'on est dans les semaines de course, puis je vais aller jogger le matin 20-30 minutes.
Pas des intervalles. Là.
À 6 au kilo, puis je vais faire 30 push-ups, puis un peu d'abdos après. Là, pour la santé, en fait, plus que pour la performance.
Ouais. Je voulais te recevoir avec Mag parce que je voulais avoir la vision d'encadrement d'un sport professionnel. Parce que, tu sais, au-delà de la pratique de sport comme on la voit, il y a vraiment, comme tu disais, une équipe complète derrière. Puis dans votre cas, c'est vraiment juste vous deux. Sauf qu'il y a vraiment beaucoup d'affaires qui va derrière la carrière qu'on voit, mettons, tu sais.
Ouais.
Puis je voulais jaser avec toi de comment on en arrive là, tu sais. Parce que Mag me parlait que, tu sais, elle avait fait des équipes pro, puis qu'à un moment, vous avez pris la décision ensemble. Ça fait longtemps que vous sortez ensemble, tu sais, je me rappelle, vous commenciez à vous dater quand on allait au temps perdu les jeudis, là.
Ouais.
Puis, à un moment donné, en 2018, vous avez pris la décision de faire de fonder votre propre équipe. Puis je veux aller derrière un petit peu ce move-là puis tout ce que ça implique, tu sais. Parce que tu passes d'avoir un salaire, tu passes d'avoir une sécurité à comme faire un saut dans le vide. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là de prendre ce saut-là? Puis c'était quoi la visée éventuelle? Puis là, on passera à travers le processus.
Ben en fait, c'est ça. Peut-être juste pour setter le stage, le vélo, c'est le vélo de route, là, Tour de France, toute l'équipe, ça, c'est très professionnel. Tu sais, un contrat, une équipe, ton salaire est déposé le jeudi.
Ouais.
That's it. L'année prochaine, tu renégocies ton contrat comme si tu étais
un joueur d'hockey.
Ingénieur ou joueur d'hockey. Mm-hmm. Le vélo off-road, le mountain bike, le cyclocross, ces disciplines-là, c'est professionnel dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont capables d'en faire. Beaucoup de gens. Peut-être une centaine de personnes sur la planète qui sont capables d'en vivre très bien.
Ce qui est quand même beaucoup.
C'est pas la NBA, mais c'est pas non plus la natation où est-ce que t'as trois personnes mondialement qui sont capables d'en vivre. T'sais, fait qu'on est quand même à mi-chemin. Fait que nous, quand on a pris cette décision-là, en fait, c'est que on avait commencé ensemble dans le vélo. Le Mag allait signer un contrat pour la plus grosse équipe professionnelle à ce moment-là, qu'un vrai salaire, une sécurité d'emploi, etc., là, tout le kit. Puis on s'en allait un petit peu à part. Tu sais, quand t'es 250 jours par année sur la route pour des courses, moi, rester à la maison 250 jours par année toute seule, c'était comme pas ça notre entente. Tant de moyens,
ouais.
c'était moins cool un peu. Puis quand j'allais aux courses, ben, je faisais pas partie de son entourage.
Tu faisais rien.
Fait que j'allais voir la course, mais ultimement, j'étais plus une nuisance qu'autre chose, tu sais.
Mm-hmm.
Parce que ça la tiraillait entre moi et son équipe.
Ouais.
Fait qu'à ce moment-là...
Passer du temps avec toi ou comme
être 100% dans le monde, c'est ça. Faut qu'elle soit son équipe, concentrée, tiraillée. Puis on était plus jeunes aussi dans ce temps-là. Ouais. On n'avait pas l'expérience qu'on a là. Ça fait 10 ans de ça.
Ouais.
Fait qu'à un moment donné, on a dit, OK, ben là, tu sais, let's do it. Puis à ce moment-là, son équipe aussi s'éloignait de la discipline qu'elle préfère, le cyclocross. On avait plus vélo de montagne. Il y avait moins d'ambition mondiale. Le partnership diminuait au sein de l'équipe. Fait que nous, Mag, elle a commencé à avoir des grosses performances mondiales. Fait qu'on a dit, OK, ben nous, on veut continuer dans ce sens-là. On venait de s'acheter une maison. On venait de s'acheter une maison. On s'est acheté une maison en mai.
Il n'y a rien mieux qu'abandonner la sécurité financière après une grande dépense.
On s'est acheté une maison en mai, puis en septembre, on a décidé de partir.
Puis est-ce que tu étais déjà son coach?
J'étais déjà son entraîneur
depuis
des années. J'étais déjà impliqué dans le milieu du bike professionnel à travers d'autres athlètes aussi. Fait que j'avais déjà une idée un peu des contrats, comment ça fonctionnait, etc.
Mm-hmm.
On avait les deux beaucoup de contacts dans le milieu du bike. T'sais, Mag, à travers, c'est quelqu'un qui est très social. Puis à travers son rôle avec Lyft, quand il y avait des activités promotionnelles, ben, t'es toujours ultra impliqué avec les sponsors. Fait qu'on connaissait beaucoup de gens. Moi, à travers les autres athlètes avec qui j'ai travaillé, à travers les heures que tu passes debout dans le pit, où est-ce qu'ils viennent chercher de l'eau une fois 10 minutes avec tous les autres managers mécanos, ben ça finit par être ton cercle d'amis aussi. Fait qu'on avait des connaissances, fait qu'on se doutait que c'était possible, mais c'est comme ça qu'on a décidé. En fait, c'était parce qu'on s'éloigne. Bon, je veux pas dire on s'éloignait, on s'en allait pas se divorcer, là, mais tu sais, c'était juste pas vraiment excitant. Et là, c'était sa quête de son bord. Moi, je faisais d'autres choses de mon bord. Puis, on avait envie de le faire ensemble. En fait, on avait carrément envie de le faire ensemble. Fait que, on a acheté une maison, je pense qu'il nous restait 30 000 de côté. On savait que c'était à peu près ça, le coût d'un automne de cyclocross. C'est ça, c'était ça, les dépenses. Fait qu'on est parti, on a acheté un ami qui est propriétaire d'une équipe de bike. On lui a dit, t'as-tu des vieux bikes de l'année passée qu'on peut t'acheter comme ça? Si tout tombe à l'eau, on a deux bikes pour faire des courses.
Ouais.
Fait qu'on est descendu, on a acheté des bikes. Puis à partir de là, on a commencé à hustler. T'sais, on a commencé à reach out aux compagnies, puis monter des programmes, comment on va créer un retour, comment on va trouver des compagnies avec qui on peut s'associer, qui ont les mêmes valeurs que nous, etc. Fait que là, on est 4 ou 5 ans into it, je pense, en ce moment.
Puis au début, c'est... Tu sais, mettons, là, peut-être que c'est pas du tout comme ça que ça marche dans le sport, puis tu me diras si c'est le cas, mais nous, mettons, ici, quand on a lancé le studio, quand on a lancé notre podcast, puis là, c'est des cold calls, là. Straight up des cold calls. Salut, on a un podcast. Est-ce que ça vous tente de le commanditer? Commanditer sur un podcast, il y a un bon retour sur investissement.
C'est un podcast?
Là, c'est ça, exact.
On est 5 ans plus tard. On est probablement, je dirais que Mag doit être dans les 3, 4 cyclistes les mieux payés sur la planète. Puis je débarque d'un vol de 7 heures. J'ai envoyé 7 heures de cold call par email.
7 heures de cold call par email pour des commandites.
Ok, j'ai travaillé sur d'autres choses aussi, mais ouais. Tout ça pour dire que dans le fond, oui, c'était comme ça. C'est vraiment comme, hey, allô, on est ça, on fait ça.
Ouais.
Voyez-vous une valeur, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Puis ouais. C'est encore comme ça ce jour. C'est sûr que les compagnies de vélo, pour nous, c'est vraiment plus facile parce qu'ils ont une historique de, on commandite déjà, on paye déjà des athlètes, ils savent qu'est-ce qu'on fait. C'est clair, Mag est connu dans le milieu. Quand tu leur parles, on a le même jargon. On fait tel circuit de course, ça, ils comprennent. Fait qu'au début, nous, on a reach out à Specialized. On a fait une liste au début, quelle compagnie avec qui on voudrait travailler, la Dream List. Puis la Dream List, ça a commencé par Specialized parce que c'est la meilleure compagnie de bike au monde. Ils font absolument tout. Tes souliers jusqu'à ton casque, ton bike, le linge. Fait qu'on s'est dit, si on est capable d'avoir un pied dans la porte là, c'est une solide base sur quoi on peut builder. Puis, on a envoyé un email. Dans le fond, moi, j'avais le contact de la bonne personne. En fait, j'avais le contact de la pas bonne personne, mais qui finalement, ça a bien tombé que c'était pas la bonne personne. Un autre mécano m'avait dit, « Ah, parle à lui. » On envoie un courriel, ça a pris 5 minutes. Il a dit, « Yep, we're in. »
Ah ouais, that's hein? It.
Fait qu'à partir de là, c'était pas d'argent, c'était rien. C'était comme là.
Un échange de bike. Là.
Ouais, on donne 4 bicycles, une coupe de casse, des souliers, puis au moins, ça sera ça pour là. Puis on parlera pour l'année prochaine. Parce que nous, il était minuit moins un sur notre saison. Là, notre saison commence en septembre.
On a besoin de roues.
C'est ça, on a besoin de quelque chose. Là, fait que c'est comme ça qu'on a commencé. En fait, le premier hustle a été super facile. Après ça, à travers Specialized, qui sont vraiment les plus gros. Ça nous a donné une espèce de squelette puis une crédibilité sur qu'est-ce qui nous manque, où est-ce qu'il faut patcher. Puis aussi, quand tu arrives puis tu dis « Ah ouais, j'étais avec Specialized », c'est un peu la même raison, j'imagine, pourquoi certains podcasts viennent enregistrer ici. Tu sais, j'enregistre à tel studio un gage de qualité.
Ouais.
Fait que nous, c'est comme ça que ça a commencé. Mais tu sais, oui, c'est un hustle encore. Là,
à ce jour,
c'est un hustle. Tu sais, il y a des compagnies pour qui tu peux avoir une valeur exceptionnelle. Puis il y a des compagnies pour qui tu peux juste être un paquet de troubles. En fait.
Ouais.
Fait qu'on essaye, nous, de targeter les compagnies avec qui on a les mêmes valeurs, avec qui on pense qu'on peut créer un retour. Mais des fois, écoute, nos ranges de contrats, là, c'est entre 100 000, puis on veut rien avoir avec vous autres. Là, pantoute. Fait que ça, c'est...
Mais c'est dans ça que les gens essaient de se situer, mais c'est fou, tu sais, que... puis encore une fois, pour faire le parallèle avec les podcasts, parce que je connais quand même bien ça, il y a vraiment du monde qui réalise la valeur de certaines affaires vraiment spécifiques. T'sais, pour les podcasts, par exemple, il y a vraiment beaucoup de compagnies qui sont au courant. Puis souvent, c'est des compagnies qui font eux-mêmes des podcasts, fait qu'ils savent la valeur que ça a, mettons, de pouvoir parler directement à un auditoire super niché, là, comme on parlait avant d'enregistrer. Mais... Tu sais, de dire qu'il y a des compagnies qui sont prêtes à dire « Ok, on est prêt à mettre 100 000 piastres en gear puis en cachet. » Puis d'autres qui disent « Ça nous intéresse pas du tout. » C'est la preuve qu'il y a vraiment un gros range de perception de la valeur des choses. Puis j'imagine quand tu es rendu là puis que le but, c'est de vendre un produit, mais que le produit est une personne, là, mais ça reste quand même de vendre un produit.
Ouais, c'est de la vente.
Ouais. C'est faut être capable d'ajouter une plus-value à n'importe quel partnership, là, tu sais. Puis c'est ça l'enjeu principal, j'imagine.
Ouais, dans le milieu du vélo, tu sais, les gens voient quand même un retour concret par les courses. Ouais, tu sais, les courses, les photos, l'association, au likeness. Ça, c'est facile. C'est facile à comprendre pour eux dans le milieu du vélo. C'est quand tu arrives dans... Puis nous, on essaye beaucoup d'aller vers des compagnies qui viennent pas de l'industrie du vélo. Mm-hmm. Là, c'est plus complexe parce que là, il faut vraiment que tu... Un, tu fasses comprendre qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ça peut avoir une valeur pour toi, c'est quoi l'audience. Fait que ça demande plus de recherche si tu veux que moi je fais 52 au 100 mètres, donne-moi un speedo.
Ouais.
J'ai fini 3e au championnat canadien. Mais là, ça, Oasis, là, où
il s'en sac,
là, ils comprennent pas c'est quoi le championnat canadien. Là. Mais lui, son beau-frère, il a gagné l'Ironman. Fait que chez les 60-64, il a gagné l'Ironman. Fait que pour ces compagnies-là qui sont pas du milieu du bike, c'est là souvent que ça va être long. Tu sais, on va travailler longtemps sur un deal, puis longtemps, puis juste à présenter, en fait. Des fois, on se rend même pas compte de ce qu'ils savent pas ou de ce qu'ils savent.
Ouais.
Fait qu'on a été chanceux avec certaines compagnies parce que le vélo, c'est un sport quand même pratiqué largement. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui font du bike, il y a des circuits master.
Il y a de l'argent dans le bike aussi.
Il y a de l'argent, ça coûte cher. Ça coûte cher un bike, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent que le bike, c'est le nouveau golf depuis une dizaine d'années. Fait qu'il y a des, il y a beaucoup de gens qui sont dans des rôles, qui ont des décisions à prendre dans les compagnies, qui font du bike, ouais, qui comprennent ça, qui sont passionnés. Ouais. Fait que ça, des fois, ça nous ouvre des portes, tu sais. Mm-hmm. Mais ouais, c'est ça, c'est comment créer de la valeur. Puis tu sais, là, en fait, depuis quelques années, ce qu'on vend, je veux pas dire qu'on vend plus de performance parce qu'on fait encore des performances, puis ouais, c'est le driving factor de ce qu'on tout fait. Temps, il faut ouais, que ça soit de la performance, mais ouais, ultimement, on a fait un trip de bike packing d'aventure en ouais, Islande il y a 2 semaines, ouais, puis ça a été c'était pas mal plus facile vendre ça que vendre un circuit de Coupe du Monde.
C'est ça, hein, parce que moi, mettons, avec Upica, tu sais, commanditer un athlète qui ne fait que son sport d'excellence, mettons, c'est quand même rough parce que tu parles à pas beaucoup de monde, tu sais. Tandis que quand tu commandites un athlète...
Puis tous ces chums, c'est tout du monde qui veulent du stock gratis.
Ouais.
Qui font les mêmes circuits de course
c'est
que lui.
Ça, exact.
Dans le fond, ces chums, ils n'en achèteront pas du Pika.
Non, c'est ça, exact. Parce que eux autres aussi, ils vont être ambassadeurs pour une compagnie X ouais, ou Y, puis ils vont avoir eux autres aussi leur code promo. Ouais. C'est pas à eux autres que tu veux parler nécessairement. Fait que le modèle de dire, hey, on va s'éloigner un petit peu, on va aller essayer de ratisser un public plus large, tout en restant dans la performance, mais en faisant d'autres choses en parallèle, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que c'est là que tu vas chercher du monde, tu sais.
Ouais, ben, tu sais, depuis plusieurs années, the name of the game, c'est le contenu. Le monde veut ouais, du contenu exact, pour leurs médias, pour leurs médias sociaux, pour you name it, tu sais. Puis, ultimement, si tu veux faire la promotion, représenter une compagnie, il faut que tu sois vu avec des gens ou que tu aies des interactions avec des gens. Si t'es tout seul dans ta Coupe du Québec à Chibougamo, puis il y a 4 personnes, puis leurs 8 parents, ben il y a personne qui va te voir. Mm-hmm. Puis le contenu que tu peux sortir de là, à moins que tu fasses quelque chose d'original à Chibougamo, il ouais, y a pas grand contenu. T'sais. Fait que nous, on essaye de provider ce contenu-là beaucoup. On se met dans des situations où est-ce qu'on peut en créer aussi. Tu sais, oui, c'est important de performer, puis c'est important, puis c'est le driving factor, comme je disais, mm-hmm, mais ça reste quand même que ultimement, les gens, ils veulent pouvoir en parler de ce que tu fais. Puis,
exact.
Puis on est dans un monde, un milieu en ce moment, une période où est-ce que le shelf life de ce que tu fais a à peu près 15 secondes sur Instagram. Le monde, ouais, tu ne regardes pas la fin de ta story, c'est ouais, pas intéressant. Là.
Ouais.
Fait que contenu, puis beaucoup de contenu, puis plus nécessairement, même plus du contenu de qualité, en fait. Il y avait une période, il y a 3-4 ans, où c'était vraiment comment on fait des vidéos. Là, aller chercher des budgets, là, aller chercher 20 000 $ pour faire une saison de course, c'est impossible, mais aller chercher 100 000 $ pour aller faire une vidéo émotive de 3 minutes, mm-hmm, demain,
c'est loin.
Mais là, en ce moment, c'est vraiment, là, tu sais, on veut des reels, on veut que ça soit court, on veut ouais, que ça soit dynamique, on veut que ça soit vite, on veut 25 photos à chaque week-end, le plus vite possible, en dedans de l'heure que la course finit pour pouvoir en parler en premier, puis que ce soit notre publication, que ce soit partagé, etc., etc. Fait que nous, on comprend que les courses, c'est notre rêve, mais créer un retour pour les compagnies, c'est notre job.
C'est ça.
Puis... en ce moment, ben la majorité des compagnies veulent du contenu. Il y a quelques die-hard, il y a quelques compagnies die-hard, qu'eux autres, tout ce qu'ils veulent, là, c'est la toi perfo, qui gagne la course. Ouais. Là, puis that's it. Pendant qu'on a des partners comme ça, on a les deux, on a des partners qui s'en balancent. On pourrait arrêter complètement de faire des courses demain, puis ils seraient contents. En fait, ouais, ça nous donnerait plus de temps
pour faire autre chose.
Puis on a des compagnies qui, si on arrête de faire des courses demain, ben ils débarquent complètement. Mm-hmm, fait que c'est de manager un peu ces relations-là. Nous, on est toujours à peu près une douzaine de relations payantes. Fait que c'est de manager cette douzaine-là selon ce qu'ils veulent. Puis on a vraiment, on a des compagnies qui veulent qu'on aille faire des tours de bicycle avec des groupes.
Ouais.
C'est correct.
Ben oui, c'est
ça
exact,
fonctionne. Puis ouais, si c'est payant, puis si c'est une manière pour toi de vivre d'un milieu que t'aimes,
c'est ça.
Pourquoi pas?
C'est t'sais, pas sell out de faire ça. Là, t'sais.
Non, ben, peut-être certaines personnes trouveront que c'est sell out. T'sais, nous, en fait, tous les matins, on se lève, on va faire du bike ensemble.
C'est ça, de toute façon.
On se fait un bon déjeuner, on n'est pas trop stressé, puis on voyage le monde à faire du bike, des aventures, puis en même temps, on développe d'autres aptitudes personnelles, des aptitudes mm-hmm, de business. Tout. Fait, est-ce que c'est sell out? C'est sell out. Si tu trouves que c'est sell out,
ouais, ben, ça t'appartient. Là.
Dans le fond, tant pis pour toi.
Ouais, ouais, c'est ça, exact.
Parce que tu te coupes peut-être à des opportunités. T'sais.
Exact. J'ai l'exemple de. Je sais pas si tu connais Mathieu Blanchard, qui est un ultra runner qui.
Le nom de.
C'est arrivé 3e au Ultra Trail du Mont Blanc, puis ça a comme pas mal mis sa carrière, vraiment sa map à l'international. Mais lui, c'est un des meilleurs au monde dans, ben, dans sa discipline, mais c'est surtout un des meilleurs au monde dans se vendre.
Okay.
Parce qu'il est vraiment, vraiment bon pour ça. T'sais, lui, son premier Ultra Trail du Mont-Blanc, alors qu'il n'était pas encore dans une équipe pro, il était pas là, il était à Salomon International, mais il n'était pas encore là-dessus. Il a fait venir un documentariste pour documenter sa préparation, puis l'UTMB. Puis il a mis ça sur YouTube, puis ça a été un documentaire. Puis c'était pas une performance... il est arrivé 3e au dernier, mais je pense qu'il était arrivé comme 16e ou de quoi de même. Puis c'était de quoi de élite, mais pas à tout casser. Là,
mais tu vois ça, mettons, vous ça dans le milieu de la business... C'est très bien vu, vous, quand vous avez loué ou acheté votre espace ici pour splitter en studio puis vendre de l'espace studio, vous avez dit « OK, ben ça va nous coûter X 000, mais on a une manière de rentrer dans notre argent.
Ouais. »
Ben lui, Mathieu, il a dit « Moi, ça va me coûter X 000, le flyer, le gars, le montage, etc., etc., etc. » Mais c'est comme ça que je vais me différencier des 25 autres qui sont là autour de moi, qui sont peut-être bien meilleurs que moi, mais qu'ultimement, ils n'ont rien à vendre. T'sais.
Exactement. Puis cet exemple-là est vraiment parlant parce que lui, après ça... Même s'il gagne pas les gars qui gagnent les courses avant lui, je suis sûr qu'ils ont moins de revenus que lui. Là. Ils génèrent moins de revenus que lui avec leur carrière professionnelle. Puis peut-être même qu'ils ont une job sur le side. Tandis que lui, là, il s'est créé une tribune. Là, il est rendu au-dessus, je sais pas, 180 000, pas 180 000, mais 80 000 sur Instagram. Puis il vit de ça. Il voyage, les gens le suivent. Fait que la valeur ajoutée du contenu, c'est pas négligeable.
Ben non seulement c'est pas négligeable, mais. En fait, c'est essentiel si tu veux te démarquer parce que, tu sais, du monde qui sont bons comme lui, sa planète, il y en a peut-être une centaine là, qui sont dans le même bassin de performance. Non,
t'as si pellé qui font des podiums à des
à gauche, à droite dans des compétitions internationales, puis il y en a peut-être 10 qui vivent de ça, tu sais, les deux qui sont absolument les meilleurs au monde, puis après ça, les autres qui réussissent à se démarquer d'une manière ou d'une autre, puis investir dans ton succès, quand on parlait de sell out, c'est du sell out de vendre du contenu à des compagnies, c'est ça qui te permet de vivre ton rêve.
Ouais.
Ben, c'est pas sell out, c'est aussi, financer ton projet.
Exact, c'est ça l'affaire, c'est ça. Puis c'est pas différent que de vendre de la pub sur un podcast, là, tu sais.
C'est pas différent qu'acheter un paquet de crayons en Chine, mettre un beau label dessus puis le revendre, tu sais.
Ouais.
Je pense que c'est ça que dans le sport, tu sais, oui, il y a beaucoup de sportifs qui le font pas. Mais il y a beaucoup de compagnies dans le sport aussi qui le reconnaissent pas. Tu sais, dans le sens où, nous, quand on voyage, on engage un photographe à toutes les fins de semaine. Mm-hmm. Pendant 26 fins de semaine de course de septembre à
vous
février.
Vous prenez des photographes aux endroits où est-ce que, mettons, sur un genre de Fiverr, vous trouvez des photographes où
non,
est-ce que vous êtes?
Non, ben, avec les années, on a des gens avec qui on travaille, tu sais, tout le temps, qui sont dans le coin, on peut les engager. Des fois, on fly du monde avec nous, des fois, on fly du monde pour des séries vidéo, des fois, on fly du monde des séries, mais... Tout ça, ben, à toutes les fins de semaine, ça nous coupe une couple de centaines de piastres de photos.
Ouais, ouais.
On achète les droits pour nos partners. Ouais. Fait qu'on, quand on leur donne les photos, quand Specialized met une photo de Mag, le photographe ne revient pas et dit hey, t'as pas acheté la photo. Ouais. Fait qu'on achète tous les droits pour tout le monde. Fait qu'ultimement, ça, ben, ça nous coûte de l'argent.
Ouais.
Fait que quelqu'un qui veut faire partie de ce qu'on fait et qui veut qu'on fasse faire la promotion, mais qui veut utiliser ce likeness-là, mais il faut qu'ils comprennent que la qualité du contenu, la qualité de votre studio ici, là, tu viens enregistrer ici, ça sonne pas comme si tu enregistres dans ma salle de bain chez nous, ça sonne vraiment mieux. Puis il y a quelqu'un qui édite, c'est quick, c'est facile, c'est clé en main. Mais nous, c'est un petit peu comme ça qu'on veut le faire aussi, mais ça, clé en main, ça a un prix.
Ça a un prix.
Puis il y a beaucoup de compagnies qui travaillent avec des gens qui sont prêts à le faire pour rien. Quand on parlait de son beau-frère qui a gagné son Ironman 60-64, qui lui est au clé, il donne 20% off sur une paire de lunettes, puis il crie sur tous les toits qu'il est sponsor par au clé.
Ouais.
Moi, je suis sponsor par au clé. Ben, au clé, eux autres, OK, ben pourquoi on donnerait 1000$ à l'autre d'abord?
On peut donner 20% à ce gars-là.
Si on donne 20% à ce gars-là, fait ça, c'est de la facile de la beauté, puis le côté moins le fun un peu des médias sociaux, c'est de gratter un peu à travers ce qui est de la qualité, qu'est-ce qui est du contenu, puis de la représentation de qualité, puis qu'est-ce qui en est pas.
Ouais.
Fait que ça, c'est quelque chose qu'on frappe souvent. On va dire, OK, ben, on va faire un pitch à une compagnie. Ah ouais, on veut faire partie de tout. On veut faire partie des photos. On veut que vous nous suppliez tout. On va vous envoyer ci, ça, blablabla. Puis on leur envoie l'espèce de pay grade, là, ou le scale de ça, ça,
le prix pour les affaires,
ça te donne ça te donne ça, ça te donne ça. Puis la réponse, c'est ah, ben là, dans le fond, on n'avait pas d'argent.
Ouais.
Mais là, tu pensais, dans le fond, que ces photos-là, ils arrivaient de comment.
Ouais, c'est ça, exact.
Fait que ou que ces podcasts-là, ou que peu importe quoi, tu sais, ouais. le temps de quelqu'un, si t'es pas capable de mettre une valeur sur le temps de quelqu'un, mais est-ce que tu devrais même t'associer à cette personne-là si t'évalues que son temps vaut rien, mm-hmm. tu sais? Fait que c'est une question des fois que c'est une espèce de situation à laquelle on fait face
ouais.
des fois.
C'est clair. Puis après ça, le travail, c'est justement, comme tu disais, d'être capable de leur expliquer la valeur ajoutée de ça, tu sais. Parce que moi, mettons, juste les photos que vous m'avez transmises pour votre trip dans le nord, là, tu sais. Pas en Islande, là, mais dans le nord aussi.
À Tremblant.
Ouais. Puis les photos sont incroyables, tu sais. Du contenu de même pour un brand, c'est priceless.
Tu sais, ultimement, t'aurais payé quoi, là, 1200, 1500 piastres un photographe pour un photoshoot pour une journée, là, ouais. dépendant de la...
Ou moi, je serais allé, puis ça aurait pas eu l'air de ça, là, tu sais. Ouais.
Puis, ben là, tu l'as, là. Là, ouais. ça va te coûter X pour l'année pour faire partie de ça, puis à tous les vendredis, samedi, dimanche.
T'as ça.
Le lundi, là, dans le 24 heures que la course est finie, t'as tous les détails, t'as des quotes, t'as les photos... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire partie? Tu as des projets? On est là, on est disponible mm-hmm. pour les faire.
Mm-hmm.
Fait qu'ultimement, ça a une valeur. Puis, je pense que les gens comprennent plus maintenant. Il y a une couple d'années, c'était peut-être plus difficile. Il fallait leur expliquer dans le fond. Parce que souvent, tu fais affaire avec des employés. Hein, c'est des gens, mettons, responsable marketing d'une compagnie. Lui, employé est payé le jeudi.
Ouais.
Sa sécurité d'emploi est là. Quand il va à un congrès, ben, il a la carte de la compagnie, il met toute sa carte de la compagnie, puis quand il revient, ben, il a eu sa prime d'éloignement pour le congrès et ouais. son bonus de temps. Puis souvent, c'est déjà arrivé qu'il faut expliquer, dans le fond, toi, quand tu vas au congrès ou quand tu viens à la course, c'est-tu toi qui payes de ta poche? Il dit, ben non, c'est malade, je ne viendrai pas payer de ma poche pour venir faire la course.
Ouais.
Puis on dit, ouais, mais dans le fond, quand nous autres, on vient à la course pour prendre des photos, là, qui paye ça, tu penses, dans le fond?
Ouais,
fait que ça, c'est le genre de situation auquel on vit à tous les jours, là, jusqu'à la semaine passée. Là, ouais. En fait, là, t'sais, on est rendu à un point que ça change, mais la semaine passée, on a investi énormément de temps sur un partnership qui était ultra excitant. Nous autres, on était excités et tout pour que finalement, se faire dire « Ah, ben on pensait pas que ça allait coûter de l'argent. »
On n'avait pas d'argent pour ça.
On pensait pas que ça allait coûter de l'argent. OK.
On aurait peut-être dû être plus clair dès le début.
C'est ça. Puis en même temps, c'est surtout quand tu veux pas les effrayer, tu veux pas arriver et dire, ben là, c'est temps, puis ouais, sinon, on ça. Parle même pas de temps.
Tu veux commencer discussion plus casual un peu avant. Là,
exact, ouais. c'est ça. Puis est-ce qu'on fit? Est-ce que nos valeurs fonctionnent? Exact. Est-ce que nos projets font du sens pour vous? Est-ce que vos projets font du sens pour nous? Fait que ça, en fait, c'est une partie de. Quand on parlait de mon rôle dans le sport, c'est une partie de mon rôle dans le sport en ce moment. On partage les compagnies, Mag et moi. Fait que certaines compagnies, c'est Mag qui va les faire. Certaines compagnies, c'est moi. Quand ça se met à mal, la majorité des contrats, c'est moi qui les relie puis qui va faire les modifs s'il y a des modifs à faire. Souvent, ça va être moi qui va trouver les nouvelles compagnies, pas nécessairement, mais qui va faire la recherche. Je regarde ça. Puis là, on évalue. Est-ce que c'est mieux que ce soit Mag qui les contacte ou est-ce que c'est mieux que ce soit moi? Il y a certaines compagnies qui aiment mieux avoir le contact direct avec elles. Certaines compagnies que
contact plus corpo un peu.
Plus corpo.
Ouais.
Fait qu'on joue ça comme ça. Fait qu'en ce moment, c'est un petit peu ça mon rôle dans le sport. Hein.
Puis tu parlais, quand on s'était parlé, tu parlais de l'importance du casque des cyclistes. Ouais. Là, t'sais. Puis avant qu'on en parle, tu reviens du Tour de France, t'arrives de l'avion là
t'as attaché
ces Champs-Élysées hier, dans le fond. Combien tu penses que Red Bull paye pour le casque de Wout van Aert? Parce que c'est Jumbo Visma qui ont accepté qu'ils portent pas le casque des sponsors de Jumbo Visma.
Ouais.
Puis qu'ils portent le casque Red Bull tout le long du tour.
Ultimement, c'est le même casque. Tu sais, le fabricant du casque, c'est le bon. Le casque est juste peinturé Red Bull. Écoute, la valeur de l'argent, c'est difficile à dire par rapport à Walt. Puis tu sais, si j'avais à donner un guess, tu me demandes combien je guess. Après moi, ça doit être 100 000 et plus probablement pour Walt, quelque chose de même. Jumbo Visma, ils ont accepté. Je pense que en ce moment, dans le bike, si t'as Wout van Aert dans ton équipe,
c'est ça.
Ta réponse, c'est oui à peu importe c'est quoi
dans
la question.
Dans mon contrat, j'ai le droit de porter le casque que je veux.
C'est ça. Dans le fond, dans mon contrat, je vais faire ce que je veux. Si tu signes pas, je m'en vais ailleurs et ils vont accepter. Fait que je pense que ça, c'est... Ouais, effectivement.
Mais oui, le casque, c'est un spot important quand même, là, parce que c'est ça... Toutes les photos, tu vas être là. Tu as
un casque, c'est ça. Puis peu importe l'angle, il y a toujours une manière de le marketer. Il y a toujours une manière que tu peux le voir. Puis c'est là que tu vois les bonnes compagnies de sport qui font du market, qui sont bons en marketing, puis les compagnies qui font pas. Tu regardes certaines compagnies, tu vas regarder les courses, puis tu vois le coureur d'un angle, puis t'as aucune idée c'est quoi le casque, t'as aucune idée c'est quoi la marque, il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Puis t'as d'autres compagnies que eux autres, leur casque, c'est vraiment clair. C'est qui, c'est quoi, c'est comment, c'est tes logos.
Le casque Red Bull, tu peux le voir de Mars.
De la Lune, exactement. Puis tu vas savoir c'est Red Bull. Puis tu sais, entre autres, ben, je peux juste parler pour ce que nous on vit, mais mettons Specialized, les casques que nous on utilise sont pas à vendre. Ils sont custom made pour les athlètes professionnels Specialized.
Pour afficher comme du monde.
Pour afficher comme du monde. Les logos sont placés différemment pour pas que, si, mettons, ton père il en veut un casque de vélo, pour pas qu'il ait l'air d'un panneau publicitaire nécessairement.
Ouais.
Mais là, ton père, je te garantis que si faisait du bike, il en voudrait un qui a l'air d'un panneau publicitaire parce que son édition limitée.
Quand tu tombes dans du bike, tu vas pour les éditions limitées.
Le plus limité, le plus je le veux. fait que Specialized, eux, font complètement deux runs de casques différents. T'sais, de la même usine, mais c'est la run pour les athlètes professionnels. Ça, c'est la run pour les gens qui l'achètent en magasin. Fait que les casques que nous, on a, sont pas achetables.
Ouais.
Fait que oui, le casque, c'est ultra prisé. Ça fait des années, nous autres, qu'on essaye de travailler sur différents deals par rapport au casque. On n'a pas eu de succès encore. Ouais. On s'associe pas nécessairement... Puis je veux pas parler contre Red Bull parce que ce qu'ils font pour le sport, c'est exceptionnel.
Mm-hmm.
Mais il y a des valeurs... tu sais, mettons le kombucha ou le thé glacé ou le café froid, ça fit peut-être plus notre personnalité puis notre profil qu'une boisson énergétique avec des motocross puis des pitounes.
Ouais.
Tu sais, ça, c'est moins notre vibe un peu. Là, on habite dans le fond du bois, fait que c'est
un peu
quoi
plus,
que ça pourrait être en motocross. Là,
wow, c'est un autre dossier.
C'est un autre projet. Mais c'est ça, fait qu'on essaye on essaye fort pour le casque. On a quelque chose in the making là. On devrait avoir le contrat la semaine passée.
Touche du bois.
puis on a peut-être quelque chose qui s'en vient, mais c'est ça, c'est a big piece.
Ouais, c'est quand même, c'est du stock auquel on pense rarement quand on regarde les athlètes professionnels, le travail qui va derrière.
Le thinking de ce qu'ils ont l'air.
Ouais, de ce qu'ils ont l'air, mais aussi de le travail qui va derrière les commandites, tu sais.
Ouais.
Comment qu'ils font pour être des athlètes? Parce que être un athlète professionnel, ça inclut que, ça implique que c'est ta profession puis tu gagnes ta vie avec ça, tu sais.
Ouais.
Puis rares sont les élus, là, tu sais, qui peuvent être athlètes professionnels parce que il y a carrément de travail qui va derrière ça. C'est fou.
Je pense que, tu sais, nous, si on n'était pas deux, ça serait. Je suis si bon que ça, là. Je veux pas me péter les bretelles, mais si on n'était pas deux, je pense pas que ça serait possible faire pour Mag, parce que le poids de laver son bicycle, commencer à faire les commandes d'équipement, puis tout, c'est des fois, on va s'asseoir à l'ordinateur 2 heures tous les matins après avoir déjeuné avant d'aller s'entraîner, puis moi, je vais m'occuper de faire les commandes, gérer l'inventaire, etc. Puis elle va créer du contenu quelconque, elle va faire son post pour la journée, elle va gérer une relation avec un sponsor.
Mm-hmm.
Mais tout ça, ça serait x2 pour quelqu'un de seul, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a des structures qui existent. Mais les structures, elles te permettent moins de flexibilité un petit peu. T'sais, nous, quand on voyage, si tout d'un coup, en fait, cette Mag est malade, là, elle ne fait pas la course. Il n'y a personne qui va l'obliger à la faire.
Ouais.
T'sais, si pour X, Y raison, on change nos plans, dernière minute, c'est arrivé cet été, c'est ça qui est
pas le choix, c'est ça.
C'est ça qui est ça. On n'a pas 40 personnes à gérer autour de nous, à annuler leur vol. On n'a pas 4 autres coureurs qui se fient sur moi pour traîner leur stock ou laver leur bicycle ou booker leur hôtel. C'est vraiment que nous deux. Fait qu'on peut se retourner vraiment, vraiment rapidement.
Ouais.
Mais en même temps, toute la charge du travail retombe sur nous deux.
Ouais, c'est ça. Tu parlais de voyager. Là, vous êtes pogné un genre de spot en Europe où vous avez un endroit où vous retournez souvent.
Ouais, on a comme une maison qu'on loue, là, ça va être la 3e ou 4e année qu'on loue là-bas. On maximise notre visa européen, là, fait qu'on y va le 90 jours complet durant la saison. Fait que nous, c'est comme de mi-novembre à mi-février environ. Mm-hmm. On a un RV qu'on loue tout le temps là-bas, fait qu'un motorisé qu'on loue.
À quoi ça ressemble? Parce que là, une fois que vous êtes rendu là-bas, oui, tu continues à être un peu l'agent, sauf que pour la saison, mettons, les contrats sont signés. Laissons les contrats de côté puis les commandites de côté, là. Là, tu deviens mécano, dans le fond, toi, là. Quand vous partez en tour comme ça, avec le VR,
Ouais, la salopette.
Ça ressemble à quoi? Combien de bikes dans le VR?
Ben, puis... nous, on amène 4 bikes pour Mag. On est chanceux. Moi, je suis capable de fitter sur un de ses bikes. Fait que je l'ajuste un peu pour la semaine. Moi, je peux l'utiliser, mais on a 4 bikes. On voit, j'ai une douzaine de paires de roues, là. Fait que, mec, ça fait 20-25 roues. On a des bacs de spare parts au complet, là. Fait que, mettons, l'équivalent, le nécessaire pour remonter 2-3 bikes. Des tentes, laveurs à pression, génératrices.
Des tentes?
Ouais, des tentes, tu sais, des 10 par 10, là, des tentes d'événements.
Des grosses tentes, ouais. Genre 3.
Ma tante Suzanne, ma tante Nika. Ce serait pratique, pareil, pour préparer le souper et tout. Le lavage, tout le kit.
Ouais. Mais ok, non, mais vous dormez dans le VR, là. Vous dormez pas dans les tentes, là. C'est ça.
C'est des tentes pour rincer.
On
a une maison. En fait, le VR, tu sais, la discipline de Mag, c'est vraiment froid, puis c'est vraiment sale, c'est vraiment cochon. Fait que le VR, c'est surtout pour les journées de la course. Elle va voir le parcours, mettons, 4 heures avant la course. Puis là, ben, mettons les juniors, ils partent. Fait que là, elle a comme 2 heures à niaiser. Fait que d'avoir cet espace-là chauffé, tu sais, en Belgique, wow. L'hiver est mouillassio, puis ouais. Il fait 5 degrés tout l'hiver. Là.
Good times.
C'est ça, good times. Fait que ça te prend une place couverte si tu veux être compétitif. Fait que c'est surtout pour ça, c'est rare qu'on couche dedans. Souvent, il y a tellement de bikes en plus de partout dans leur vie que des fois, le lit n'est pas accessible. Une couple de fois qu'on est sur la route, ça devient plus simple de dormir dedans. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, je monte les bikes, je nettoie les bikes. C'est là-bas, il mouille assis tout le temps. Fait qu'à toutes les fois qu'on a un événement ou une ride dehors, ben tout ce qui bouge est à remplacer ou à tuner ultimement, là, tu sais. Fait que c'est ça, on a comme une mini-production. Dans le fond, on a un container de storage en Europe avec toutes nos affaires qu'on a besoin pour les courses là-bas qu'on a accumulées avec les années. Puis
les bikes... Vous les voyagez entre ici et là-bas?
Ouais, des fois on les voyage une fois, des fois on les voyage deux fois. Cette année, tu vois, j'ai fait une commande split. Fait que dans le fond, on nous envoie des bikes ici puis des bikes en Europe. Okay. Fait que genre, on n'aura pas. Étant donné qu'on va vraiment juste en Europe une fois, on va faire comme 2 mois, 1 mois et demi aux États-Unis, puis après ça, on part en Europe pour 3 mois. Ben, on nous restait quelques bikes à la maison. Fait qu'on va pouvoir se dépanner avec les bikes qu'on a à la maison aussi pour le début de saison aux États-Unis. Puis après ça, on va avoir comme des bikes neufs en Amérique puis une flotte complète de bikes neufs en Europe.
Puis une fois que la course est commencée, de quoi ça a l'air ta job à toi?
Dans le fond, moi, Mag, souvent je vais aller au départ avec elle parce qu'ils sont habillés, là, ils mouillent assez au plus facile, comme on dit. Fait qu'ils sont bien habillés pour la course, ben, ils se mettent en skin suit, fait presque rien, il enlève tout le vêtement. Fait que je vais au départ ramasser son vêtement, je pars en courant, je m'en vais dans le pit. Il y a une zone où est-ce qu'ils peuvent changer de vélo si leur vélo devient trop boiteux. Ils passent là environ 3 minutes. Fait qu'aux 3 minutes, elle va me donner son bike qui avance presque plus. Moi, j'en donne un propre. Là, je prends le sale, je lave, ça presse vite, je loube. S'il y avait quelque chose qui marchait pas, elle me l'a crié, là, la selle est trop haute, la selle est trop basse, whatever. Puis là, après ça, elle la repasse en 3 minutes. Fait que des fois, elle va changer à toutes les 3 minutes, ça peut arriver. Fait que moi, dans ce temps-là...
Elle va changer de bike à toutes les 3 minutes où t'es là. Tu laves le bike, tu redonnes le bike,
Des fois, je me lève la tête, ça fait 50 minutes, la course est commencée, là, puis j'ai de la boîte là, d'ici jusqu'au pied, puis tu sais, j'ai rien
vu aller. Tu t'en rends pas compte,
je sais même, tu sais, oui, je sais où Mag, là, mettons, je sais quelle position elle va être, où elle est où dans la course. Mais mettons, les autres filles, là, je les vois après la course, elle pourrait avoir gagné la course ou fini 60e.
Tu sais pas c'est qui.
La seule affaire que je check, c'est OK, Mag, elle arrive là, Mag, elle arrive là, Mag, elle arrive là, le bike, là, OK, prêt, le bike est prêt. Puis il faut changer de bord tout le temps. La manière qu'il faut de la Mag, ça fonctionne, c'est que c'est comme un pit double sens. Fait au début, c'est facile, tous les coureurs passent tous à la même place en même temps. Mais plus que la course s'allonge, plus les distances des coureurs est grande. Fait que des fois, t'as des filles qui passent des deux bords en même temps, tu sais. Puis là, tu te dis, ah shit, t'es rendu où, là, tu sais, sur le parcours? Fait que c'est pour ça que je peux juste vraiment tracker elle.
Ouais, c'est ça.
Où est-ce qu'elle est sur le parcours pour donner son bike? Fait que ça ressemble à ça. Puis après ça, quand la course finit, ben, je recours au finish line pour lui donner son linge parce que là, elle gèle.
Ouais.
Puis quand elle fait le podium, ben là, c'est a whole other thing parce que, ben, les coureurs là-bas vont avoir 2 employés juste pour le podium. Fait qu'une maman qui t'attend avec ton snack. Puis un employé qui te lave, puis qui a ton linge, puis toute l'équipe. Fait que moi, quand Mag a fait le podium, c'est comme... souvent, je vais pogner quelqu'un que je connais, je vais dire, hey, dans le fond, peux-tu ramener des bikes au RV? Il faut que j'aille m'occuper du podium. Puis les gens sont excités, puis sont contents de t'aider quand tu fais une belle performance. Fait que ça ressemble à ça, des grosses journées. Après ça, on sac les bikes dans le RV, on conduit, on tape à peu près tout le temps 2 heures des courses, 1h30, 2 heures, on conduit 2 heures. On arrive à la maison, puis là, on recommence, on démonte les bikes au complet, puis on remonte. Souvent, on court samedi, dimanche. Fait que le samedi soir, ben, on démonte les bikes, on remonte au complet pour le dimanche.
Tu démontes au complet, tu laves tout.
Ouais, des fois, non. Tu sais, des fois, c'est pas si cochon que ça, mais aussi bien prévoir que ouais, ça va ça. Être à démonter au complet par monter.
Ouais. Ouais.
Fait que c'est ça qu'on fait. Fait que. Fait que là, à ce moment-là, c'est ma relation avec le sport, c'est ça.
Ouais.
Des clés Allen puis des guenilles.
Ouais. Ouais, c'est ça, parce que toi, tu t'entraînes pas. Tu vas jogger le matin, là, tu disais tantôt. Là.
Ouais, puis même souvent, ces journées-là, on va partir à 6-7 heures de la maison pour revenir à 6-7 heures le soir. Fait que tu sais, je jogue pas pantoute. Ouais, je fais rien. Ça. Ma relation avec le sport, c'est que je suis un mécano cette journée-là.
Comment tu planifies, parce que Mag nous parlait tantôt des trainings entre. Ben, tantôt, pour ceux qui nous écoutent. Là, une couple de semaines. Elle nous parlait des trainings entre les coupes, tu sais.
Ouais.
Parce que c'est quand même un challenge, là. Tu sais, moi, je me rappelle juste quand on avait deux fins de semaine avec des coupes universitaires de natation, tu sais, back-à-back, la semaine entre les deux, c'est comme une genre de zone floue à essayer de revenir le plus vite possible pour l'autre coupe, mais en même temps, pas sacrifier le big picture des championnats canadiens qui sont dans deux mois, tu sais. Fait comme essayer d'avoir un genre de semaine de récup, mais de grind encore. Tu sais, comment tu planifies ça?
Ouais,
est-ce que vous regardez, mettons, au début de la saison, ici, on pique, puis on essaie de se rendre là, peu importe vraiment les perfos sur les petites coupes, mettons?
Ben, par le passé, c'est ce qu'on a fait, surtout quand t'étais plus jeune pour se démarquer. Parce que c'est un avantage que t'as quand t'es pas vraiment un professionnel établi. C'est que tu peux pick and choose, tu sais, t'es pas obligé d'aller partout. Tu peux dire, moi, celle-là, je sais que tout le monde est fatigué, ça fait 3 semaines de suite qu'il court, moi, je vais piquer là, puis je vais faire une performance standard, ça va me permettre de gagner en notoriété dans le milieu. Fait qu'on s'est servi beaucoup de ça avant. Maintenant, Max, ses objectifs de saison sont souvent plus spreadés. J'aimerais ça être bon ici, là, puis là, puis là.
J'aimerais ça être bonne partout, dans le fond.
À toutes les fins de semaine. Fait que nous, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on s'établit des guidelines. T'sais. On dit, OK, ben les championnats du monde, puis telle Coupe du monde, qu'on sait que t'es bonne d'habitude, que le parcours t'a fait bien, ça, on priorise ça. Mais après ça, on s'ajuste. Puis t'sais, notre guideline tout le temps, c'est santé. Mm-hmm. Parce que quand on est dans des conditions comme ça, t'sais, quand t'es à la piscine, si tu tombes malade, parce que je veux pas dire que tu as fait la cave à l'extérieur de la piscine, mais tu sais, c'est rare que tu vas tomber malade dans la piscine. Tu vas t'affaiblir peut-être parce que tu t'entraînes. Puis si tu vas après ça clubber le vendredi soir, ben, ça se peut que tu tombes malade.
Ça se peut que ce soit ça
mais
le problème. Là.
Dans ce, c'est ça, mais dans ce que nous on fait, toutes les rides sont à pas chaud, wet, ils mouillent, t'es toujours autour du freezing rain. Les journées de course, t'es dehors à journée longue ou dans leur vie, chaud, froid. Fait que la nature du sport fait que t'es beaucoup plus sensible à tomber malade. Fait que notre priorité, c'est tout le temps santé. Nous autres, notre guideline, c'est santé. Fait que quand on n'est pas sûr d'une décision, on se dit dans le fond, qu'est-ce qui est mieux pour la santé? Ouais. On dit, OK, on a l'idée que cette semaine, on a coursé samedi, dimanche, on aimerait ça faire une longue sortie de 4-5 heures lundi. Easy mardi, un workout mercredi, un workout technique jeudi, vendredi relax, on recourt encore. Puis le lundi matin, Mag, elle se lève, puis elle est comme, ah, je suis fatigué, ou j'ai mal là un peu, ou je suis pas trop sûr. Si on était au Québec, puis on avait tout notre système de support, puis peut-être qu'on dirait, bah, regarde, go, vas-y, on y va pareil, puis on grind, t'sais. En Europe, pour nous, tout seul là-bas, à se regarder dans les yeux, quand on tombe malade, c'est vraiment pas le fun, on a fucking rien d'autre à faire.
Ouais, exact.
Je sais pas si on a le droit de sacrer sur le podcast de Pika.
Non, on sacre pas ici.
Mais on a absolument rien d'autre à faire. Ouais. Fait que si on tombe malade ou blessé, ben soit on revient à la maison puis la saison a fini là, ou soit on se regarde dans les yeux pendant 2 semaines dans notre maison de location avec notre vie sur on hold. Ouais. Fait que souvent on va avoir un plan de base qu'on veut suivre, mais on s'assure pour avoir une longévité puis un steadiness dans la saison, on a toujours prendre une décision santé.
Ouais.
Fait que c'est un peu ça notre principe d'entraînement.
Ouais. C'est ça que Mag nous expliquait sur son podcast. Puis ça, c'est quelque chose, moi, puis j'en ai parlé sur l'autre podcast aussi, mais je vais en reparler maintenant. Que je trouve qu'il était vraiment sous-estimé, du moins dans ma carrière de natation, c'est ces moments-là où est-ce que t'es complètement scrap, de faire attention. Parce que c'est souvent là que tu vas over the line, que tu tombes malade, que tu te blesses, que tu fais un genre de faux mouvement ou que tu tombes dans le surentraînement. Puis ça, c'est long revenir de ça. T'sais. C'est tellement contre-productif de tomber dans ce trou-là. En plein milieu d'une saison, en plein milieu d'un grind d'entraînement, tu sais, d'avoir 2 semaines où est-ce que tout ce que tu fais, ça sert à rien, puis ton fitness fait juste descendre en chute, tu sais.
Ouais.
Tandis que de juste rester comme. éviter tout le temps d'aller dans cette zone-là. Là, tu sais, quand tu te sens moyen, là,
ouais.
je me rappelle une coupe d'entraînement à natation à 5 heures quand je me levais que j'aurais dû rester couché. Là, tu sais.
Ouais, mais je pense qu'aussi, encore, je veux pas juger les disciplines. Là, puis tu sais, j'ai nagé, là, j'en ai nagé en esti des mardis et des jeudis matin. Moi ouais. aussi. Puis je pense que le niveau de professionnalisme d'un sport reflète aussi son niveau. Comment je peux dire ça? Ben, en fait, le niveau de professionnalisme du sport, à quel point c'est professionnel, payant en termes d'argent, reflète aussi le professionnalisme des acteurs qui y sont exact. Impliqués. Tu sais, si tu regardes une game de la NBA ou de la NFL, il y a un trainer par
joueur,
par athlète. Ils ont les jambes de compression sur le bord, les machines à glace. Tu sais, c'est une production
de 10 millions.
Le warm-up,
t'as le trainer qui fait les cercles
de
jambes.
Tu peux pas t'étirer toi-même.
Ouais.
Là, c'est pas question que tu t'étires toi-même. Ouais. Ça prend rien que t'étires. Tu sais, t'as une méga production. Après ça, quand t'arrives dans le bike, mais c'est plus petit. Quand tu arrives à natation, c'est encore plus petit. Fait que tu as un coach, mettons, pour un club de
40
t'as un
athlètes,
head coach pour un club de 400 athlètes. Puis après ça, tu as des sous-coachs pour des groupes de 40-50. Fait que quand tu arrives.
Où est-ce que tout le monde fait le même set?
C'est ça, que tu fasses du 50 mètres qui dure 20 secondes ou du 1500 qui dure 15 minutes, tout le monde fait la même affaire. Fait que le niveau de professionnalisme au niveau des structures. Puis ça a probablement changé dans les dernières années, peut-être.
Probablement dans les centres de haute performance.
Plus performant, ouais. Mais ouais. C'est ça, tu sais, quand t'arrives le jeudi matin, puis le coach, il y en a 50 qui arrivent sur la piscine, il peut pas te regarder dans les yeux, puis prendre deux minutes avec toi, puis te dire « PH, comment tu te sens le matin? »
Exact.
Tu sais, comment ça va? Comment tu te mets dormi? Pas super? Ou non? Mais s'il prend deux minutes avec toi, t'es rendu à 100 minutes pour
ça, exact.
Il a pris deux heures pour faire le tour du monde, tu sais.
Ouais.
Faire le tour des athlètes, pas le tour du monde. Là. Mais fait que pour nous, je pense dans le bike, ben, t'as un ratio staff-athlète qui est un petit peu plus gros. Fait que t'es peut-être un petit peu plus d'encadrement si on veut à ce niveau-là. Mm-hmm. Fait que je pense que ça a peut-être un rapport là aussi. Là.
C'est sûr et certain. Ouais. Mais c'est intéressant ça. Puis je pense que effectivement, ben, tu sais, puis c'est pas un secret, là, c'est pas de la magie que où est-ce qu'il y a le plus d'argent, il y a le plus de ressources, là. C'est sûr que.
C'est quoi la chanson? Je fais plus de poudre pour plus
ouais,
travailler.
Plus de poudre, pour travailler plus fort, pour faire plus de poudre, pour travailler plus fort.
C'est ça.
On parle de la poudre du Pika ici.
exactement.
Dernièrement, vous êtes allé, on t'en parlait brièvement tantôt, là, tout à l'heure en Islande, pour un projet qui était vraiment pas de la haute performance, là.
Non.
Qui était du touring, en fait, quasiment,
ouais.
Là, tu sais. Peux-tu expliquer un petit peu le projet, puis on en reparlera, mais je sais que toi, tu t'es mis dans le rouge une bonne fois, là.
les deux mains pleines. Tantôt, on disait que je vais pas, là, au sein doigt de la main, là, c'était les deux mains pleines. Ouais, c'était cool, on a eu l'opportunité d'aller faire une course.
C'était quoi, en fait?
Ça s'appelle le Westfjords Way. C'est une des... Si tu regardes l'Islande sur la map, il y a comme des... c'est comme des ailes de papillon un peu, là, tu sais. Puis c'est tout des fjords. Puis dans le fond, les West Fjords, c'est les plus sauvages. Puis l'opportunité s'est présentée d'aller faire ça, d'aller faire un 4 jours de bike.
Quand tu dis l'opportunité s'est présentée, là,
je savais que ça existait l'Islande, je savais que ça existait le West Fjord Way.
Ouais. T'as jamais mis les deux.
Je savais pas qu'il y avait un événement là, tu sais. On aurait pu aller faire un voyage de bike, partir les deux ensemble, puis amener un photographe, whatever. Mais là, il y avait vraiment un événement, une course, tu sais, puis avec une heure de départ, un jour de départ, etc. Puis j'ai vu qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui s'est retiré de l'événement à la dernière minute. Moi, dans ma tête, il acceptait 100 personnes. Fait que je te dis, ah, c'est sûr, c'est sold out. Là. J'ai même jamais considéré aller là, tu sais. Puis quand j'ai vu que c'était qu'il y a eu une place d'être libérée, j'ai dit, ah, ben, tabarouette, je vais juste checker, c'est quoi ça, tu sais, rapidement. Puis là, j'ai regardé, puis j'ai dit, ah, ben, ça pourrait être nice, ça pourrait nous sortir de notre zone de confort, ça pourrait... Puis au niveau de l'entraînement, c'est ce qu'on faisait, on était à la maison puis on roulait 5-6 heures par jour.
Ouais.
T'sais, rouler 5-6 heures par jour ici ou en Islande, ben pourquoi pas aller ici en Islande.
Ouais.
Fait qu'on a contacté l'organisateur qui a dit « Oui, absolument, on vous invite, ça va être exceptionnel, blablabla. Bla, » bla, bla, bla.
On vous invite dans le sens, vous ne payez pas votre inscription ou vous ne payez pas votre billet d'avion?
On ne payait pas votre inscription, puis ils s'occupaient un peu de logistique pour
l'hébergement,
nous. L'hébergement, ces affaires-là. Okay, ouais. Après ça, quand il a dit ça, j'ai dit, OK, ben là, nous, on s'est retourné de bord. On a écrit à nos plus gros partenaires en premier, dire, hey, ça ferait tout du sens pour vous, trouvez-vous ça cool, etc. Puis à ce moment-là, ben là, les gens ont dit « Ah oui, nous, on veut en faire partie, on veut être pro, on veut que vous fassiez la promotion de tel item ou tel produit, telle affaire. » Fait que les compagnies nous ont envoyé ce qu'ils voulaient qu'on fasse la promotion, participer financièrement au voyage aussi. Il y a des compagnies qui ont chipé direct en Islande. Là,
ben, ah ça, ouais, hein?
C'était tellement dans la minute. Hein, je pense en 6 jours, on n'avait aucune idée qu'on allait là. Puis 6 jours plus tard, la course commençait.
Vous étiez là, ouais, c'est ouais, ça.
Fait que c'était 4 jours, 250 kilos par jour. Insane.
Toi, tu l'as fait sur ton bike, puis vous autres, il y a un bike qui s'est pas rendu. Ouais. Ton bike s'est pas rendu.
Le bike à Mag s'est pas rendu.
OK.
Puis dans le fond, étant donné qu'on roule la même grandeur, j'ai monté mon bike
comme
pour elle, pour s'assurer qu'elle soit 100% sponsor correct, puis qu'elle ait le stock de qualité.
Puis toi, t'as pas
gagné
le bike.
Moi, j'étais allé acheter un bike au magasin, là, comme Robert. Là. Ouais. Je suis parti.
Ouais. Ah, ben, fais-moi un bicycle.
Ouais. Fait que j'avais un basic qui était vraiment subpar de ce qu'on est habitué.
Ouais.
C'est correct, ça a été une expérience. Ultimement, ça a été un bon investissement, ce basic-là. J'ai pu faire la course, puis ouais, on l'a revendu vraiment rapidement.
Ah ouais, hein?
C'est ça, la première journée, moi, je la trouvais pas facile parce que le bike allait mal, j'étais mal fité. Je savais pas, j'ai fini de monter, c'était à 2h du matin, puis la course commençait à 6h. Fait que tu sais, c'était un peu la dernière minute.
Ouais.
La deuxième journée, j'ai une journée exceptionnelle. La troisième journée, je ne l'ai pas filé tant que ça. J'ai mal dormi, je fais de la chaleur, j'étais tout mouillé, je ne savais pas ce que j'avais, mais moi, je pensais que j'étais juste à fond.
Tu pensais que tu étais à bloc.
J'étais à bloc bien raide, là, moi, je me disais. Puis en plus, nos vols ont été annulés, ça a pris 3 jours. C'est un vol direct de Montréal, ça prend 4h40 à distance, ça a pris 3 jours, ça rentre. On n'a pas dormi les 2 nuits, puis tout, c'était compliqué. Puis la troisième chose, je suis à bloc. Je sais même pas si je vais commencer. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais pas si mal. Fait que j'ai pris le départ, j'ai vécu mes pires moments sportifs. À ce moment-là, j'avais plus envie d'en avoir des relations avec le sport.
Ouais, ouais. J'ai vécu mes pires moments sportifs.
Mes pires moments sportifs dans les profondeurs de moi-même.
Ouais.
Vraiment des sections, il y a des bouts, il y avait 100 kilos, il n'y avait absolument rien, pas un commerce, pas une intersection, rien du tout. Fait que quand tu étais là et tu étais en détresse, ça allait pas bien, ben ta seule option, c'était de tourner de bord ou de continuer. fait que oui, là, j'étais sur le bord, j'ai pleuré, j'étais plus capable. À un moment donné, je me suis smashé une bouteille d'Advil avec un Red Bull. Qui, tu sais, comme quoi ça marche le Red Bull finalement.
Ouais, ça donne des ailes.
Puis, c'est ça. Puis finalement, on s'est rendu. Puis là, on a fait des tests COVID après qu'on est rentré. Puis dans le fond, j'avais le COVID. Puis je faisais la grosse fièvre. Puis ça m'a pas aidé. J'avais jamais fait 250 kilos de bike par jour sur mon bike à moi. Là, j'ai fait 4 jours de suite sur un bike boboche avec le COVID.
Avec la COVID, ouais.
Fait que ça peut expliquer la profondeur des discussions que j'ai eues avec moi-même. Mais c'était cool, c'était différent de ce qu'on fait. C'était vraiment moins performant, c'était plus voyage. Ça m'a permis, moi, de participer aussi, tu sais, de pas juste être assis sur le bord avec une paire de roues à attendre que Maga passe. Puis quand on parlait de contenu en début d'épisode, ben ça a eu beaucoup plus de valeur pour les gens que n'importe quelle course en fait, ou presque, tu sais, en général. Fait qu'on va probablement en faire d'autres.
Ben c'est ça, parce que l'autre affaire que je réfléchissais puis que je voulais parler avec toi, c'est tu connais notre ami, mon ami JP Thibodeau, que tu connais bien, avec qui on a nagé avant.
J'étais son entraîneur à JP pendant 2 ans.
Ah ouais? En triathlon?
La fin, etc.
Okay, ah ouais, okay,
la fin, c'est ça. Dans la transition vers la course en trail.
Ouais, mais tu sais, JP qui est un coureur de trail extraordinaire, là, il vient de gagner le 50 du QMT, même pas proche du deuxième. Là.
Ouais.
Puis le deuxième étant
un athlète,
Elliot
en fait.
Cardin, qui était vraiment fort aussi. Là,
athlète exceptionnel.
Athlète exceptionnel
dans tous les cas. Peu importe qu'est-ce qu'il aurait décidé de faire, il aurait eu du succès, je pense.
Puis, tu sais, j'y parlais, tu sais, parce que lui, là, il check pour peut-être, tu sais, essayer pour vrai, là, tu sais, essayer pour vrai d'être pro, là, tu sais, d'aller ailleurs, de gagner des courses plus haut, de plus grand niveau que le Québec Mega Trail aussi cool, cette course-là est-elle, là. Puis, la question de la vie après la carrière d'athlète professionnel. Parce que là, vous autres, vos œufs sont quand même dans le panier de l'athlète professionnel, tu sais, avec Mac qui est au sommet, puis que cette fenêtre-là, même si dans des sports comme le cyclocross, la fenêtre est peut-être plus grande un peu que dans un sport comme la natation, parce que les filles à 21 ans, c'est fini, tu sais. Mais quand même, il y a une fin, tu sais. Ah, c'est il y a sûr, une fin ouais. à cette
c'est
carrière-là.
Sûr, comme on dit, c'est pas la NHL. C'est pas la fin de tout.
Une fois que la fin arrive, t'as pas tes REER pour te soutenir jusqu'à la fin de ta vie. Là, même que t'es probablement, je sais pas, vos affaires vont bien, sauf que la plupart des athlètes qui sont pas qui ont pas la chance ou le succès, mais le succès que vous avez... Ouais. Doivent vivre de paycheck à paycheck puis de saison à saison à pas savoir si la saison d'après ils ont le financement pour recommencer
pour juste pour te rendre à la course
c'est
en
ça terme, exact t'sais. Fait que c'est quoi le prospect de une question en deux volets. Le premier c'est quoi le prospect de la vie après puis le deuxième j'imagine que des choses comme ce que vous avez fait en Islande de faire hey il y a peut-être plus que la fine pointe de la performance pour gagner notre vie puis grossir le brand puis cette espèce d'affaire-là. Fait que, question
ça,
ouverte
c'est,
dans le fond.
C'est
là.
Ça c'était eye-opening pour nous. On le savait, tu le sais, parce que tu vois des gens qui vivent que de ça. Tu le quittes, mais pour nous, c'était eye-opening de voir que, wow, OK, on peut juste aller faire des voyages de bike puis vivre de ça. Là.
Ouais.
Puis, possiblement avoir fondé une famille sur des voyages de bike. Là.
Ouais. C'est quand même assez incroyable.
C'est hot. Mais c'est quand même... c'est une opportunité. C'est une option. Il faut quand même que tu crées le contenu. Il faut quand même que tu travailles. Littéralement, tu vas shooter un film. Là,
tu continues à travailler.
Sauf que tu n'as pas besoin de te dévisser jour après jour après jour après jour à l'entraînement pour créer une belle aventure. Mm-hmm. Puis raconter une belle histoire. Puis
ça, rejoindre probablement plus de personnes.
Gens,
parce que moi, je regarde une course de cyclocross. Je me dis pas... Je vais peut-être faire ça en fin de semaine. je me dis pas ça.
Non.
Si je regarde du monde aller se promener en Islande autour des fjords en vélo, c'est sûr que je suis pas obligé de faire 250 km tous les jours.
Non, mais ça peut être ton objectif. Avec ta blonde, c'est faire passer un mois là-bas.
On fait 70 à chaque jour. On s'arrête camper, tu sais.
Absolument. Puis je pense que ça, c'est notre affaire. Ça touche plus de gens. C'est moins stressant. Tu sais, la veille de partir pour un voyage de bike, t'es plus excité, relax que stressé. Tu sais, nous, des fois, on vit des moments qui sont difficiles. On est marié, on est un couple, mm-hmm. on est aussi des business partners, puis on a une relation athlète-entraîneur.
Tough, ça.
Puis il y a des moments que, tu sais, la veille des courses, le stress. Moi, je suis stressé, elle est stressée. On se connaît très bien, fait qu'on se gère, là, t'sais, on se frappe pas sur le clou, mais des fois on marche sur des œufs un peu, des fois il y a des bouts qui sont plus difficiles. T'sais, quand elle est déçue, elle est malade, elle est blessée, ben moi je suis déçu, malade, blessé, pas parce que c'est l'athlète que je coach, parce que c'est ma femme, t'sais, mais elle, des fois elle va le voir comme il est déçu parce que j'ai pas fait une belle performance, mais ultimement je suis déçu parce qu'elle est déçue.
Mais c'est ça, exact.
Il y a toutes sortes de situations à travers nos rôles mix qui font que des fois la performance, c'est vraiment difficile. Mm-hmm. C'est vraiment, vraiment gratifiant. Bien plus que n'importe quel voyage de bike. Hein, ça, on s'entend.
Ça,
tu fais ton PB au 50 d'eau la semaine prochaine.
Il n'y a rien qui va équivaloir ça pour le reste
nager,
de ma vie.
Tu peux nager jusqu'à Taïwan, ça ne sera jamais aussi.
Il n'y a rien qui va égaler cette adrénaline-là. C'est ça.
Fait qu'il y a des bons côtés, des mauvais côtés, mais oui, ça ouvre des opportunités peut-être pour faire une transition en douceur. Quand on parlait de post-carrière de vélo, en fait, c'est que peut-être que tu peux t'entraîner et être à 70-80% de ta forme, puis être quand même assez en forme pour faire des projets comme ça, puis des courses de moins gros calibre, mais qui vont te permettre de continuer à vivre du milieu, dans le milieu et du milieu pour une couple d'années, ce qui n'était pas possible là, avant les médias sociaux, en fait.
Ouais.
Avant les médias sociaux, ils voulaient un résultat dans la page de résultats en magazine, puis ta photo avec le pneu que tu as utilisé à côté, puis c'était pour ça qu'on payait. Là, maintenant, on paye pour peu importe ce que tu veux créer. Après ça, après carrière, effectivement, c'est pas la NHL. Fait que, nous, on essaye en ce moment, ça va super bien nos affaires. On vit en fait les deux sur cette équipe de course-là. On a fini de payer notre maison. On met énormément d'argent de côté. Mag est pas allé à l'école. Moi, j'ai rien fini à l'école. Fait qu'ultimement, qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Il n'y a pas de chemin de tracé, ça, c'est
non,
sûr.
C'est ça,
j'ai
exact.
Pas un bac en droit, Mag n'est pas dentiste ou elle n'est pas prof. Là. On n'a pas de formation dans rien. Fait qu'il va falloir figurer c'est quoi
tracer
la suite.
Ce chemin-là.
Ouais, on n'est pas anxieux du tout. On espère, quand on va arrêter, avoir au moins une couple d'années de côté financièrement, tu sais, pour qu'on puisse. Si on veut s'en virer de bord, puis si on veut les deux aller à l'école, là, aller 5-6 ans à l'école, ben on veut être capable de continuer à vivre quand même sans avoir besoin de travailler. Puis c'est assez professionnel pour ça. C'est assez professionnel pour dire qu'on va arrêter de travailler pendant une couple d'années après, puis qu'on a un capital pour si on veut partir un projet quelconque, on va avoir un capital pour le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, l'avenir le dira. Ouais. Je sais pas. Une chose qui est certaine pour moi, en tout cas, puis je peux parler pour moi, c'est que ça sera pas aussi engageant personnellement. Tu sais, puis je pense que tu le sais, tu le vis aussi, là, des PH, t'as fait occupation double. Si quelqu'un veut une entrevue avec PH, là, ben, c'est avec PH qui veut l'entrevue. Là. Peu importe comment ouais. tu veux payer un employé pour y aller. C'est avec PH. Ouais. C'est d'ailleurs toi qui es ici et qui ouais. fais le podcast. Ouais.
C'est d'ailleurs pas un employé qui fait ça à ma
puis
place.
Ça finit pas. Quand tu pars d'ici, à soir, tu t'en vas emballer du Pika ouais. puis tu t'en vas le shipper toi-même à poste puis ça arrête jamais.
Non, c'est ça.
Ultimement, Pika, dans une couple d'années, ça va assez gros. T'as 2-3 employés. Tu peux être chez vous puis faire les projets que t'aimes, Upika. Ouais. Fait que travailler avec les athlètes, faire le branding, penser aux grandes lignes de pensée puis ça peut être quelqu'un d'autre qui ship. Là,
exact,
t'sais.
C'est ça.
Mais quand t'es un athlète, t'es un entraîneur professionnel, tu peux. C'est toi 24 sur 24. Puis en tant qu'entraîneur, il y a toujours un entraînement planifié. Tu sais, mettons que là, j'ai planifié le prochain 2 semaines d'entraînement, mais je peux penser à l'autre d'après, puis l'autre ouais. d'après, puis l'autre d'après, puis l'autre d'après. Puis il y a toujours un workout. À chaque jour, il y a quelqu'un qui fait un workout, à quelque part, dans ma gang.
À chaque jour. À chaque jour, quelqu'un s'entraîne.
Puis à chaque jour.
Tu reçois des stats, des commentaires.
À chaque jour, quelqu'un s'attend un feedback. À chaque jour, quelqu'un a une question par rapport à la prochaine course. À chaque jour, puis à chaque moment, là. Tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est international. Fait que, moi, quand je me lève le matin, ben, tout ce qui s'est passé en Europe, c'est à gérer entre 6 et 9 le matin. Et tout ce qui se passe en Amérique, c'est à gérer là. Puis l'inverse, quand nous, on est en Europe, quand la journée finit à 9h, quand on est en Europe, là, on prend des appels, là, on fait des appels conférences jusqu'à 9-10h, des fois, soir, avec des partners, des athlètes, tout parce que, ben, c'est ça, c'est on peut pas juste les reléguer à quelqu'un d'autre, tu sais. Fait qu'ultimement, moi, je veux pas, quand on va arrêter, je veux pas que ce soit aussi engageant. Ça va faire 15 ans que je fais ça. Cette année, ça fait 15 ans, dans le fond, que tu sais, je suis on pas mal 24/24, 7/7. Puis à Noël, j'ai du monde que je coach, j'ai l'impression qu'ils font exprès. Là. C'est comme s'ils testaient une texte pour le workout aujourd'hui, le 25 à 9h.
Oh, c'est Noël.
Ouais, mais c'est ça, tu sais, regarde, la natation, c'est les cannes de Noël. En cross, nous autres, c'est la plus grosse période de course de l'année. Il y a 10 courses en 2 semaines à Noël. Fait que, il n'y a pas de férié, il n'y a pas de.
Non, ça arrête jamais.
C'est nous autres, le samedi, je parle avec des amis des fois qui ont une vie plus standard si tu veux, puis ils disent qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Je sais pas, man, c'est quand la fin de semaine? Samedi, dimanche, on s'entraîne. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on prend 3 jours de congé par année, 4 jours, 5 jours, je sais pas. On prend pas 3 jours de congé par semaine. Il n'y a pas 2 jours où est-ce qu'on arrête complètement de penser à notre travail, puis que peu importe ce qu'on fait, ces 2 jours-là affecteront pas notre retour au travail. C'est pas vrai. Puis qu'on prend 2 semaines de congé à la fin de la saison, là. On prend pas 2 semaines de congé à saouler, à se au Bahamas, puis non, à fumer du weed, là. C'est 2 semaines repos de congé complet. Couché dans le lit, à boire de l'eau. Raide, fatigué, à boire de
dans
l'eau.
Dans des bains froids, là.
Pour espérer être en meilleur état pour reprendre dans 2 semaines, tu sais. Fait que ça, d'être tout le temps on comme ça, à la longue, je dis pas que je suis tanné, mais je sais que je veux
ça,
pas que
ça fait son temps.
Je veux pas que je veux pas. Je veux dans ma prochaine carrière, je veux pouvoir. Je veux pas être la face. Pas que je suis la face de ce qu'on fait là, pas du tout. Ouais, là, mais je veux pas être.
Impliqué aussi.
Ouais, je veux pas être. C'est quoi le mot que je cherche? Pas de nécessaire, mais. Ouais, dans le fond, je veux pas être nécessaire. J'aimerais ça être disposable.
Je comprends ce que tu veux dire.
Tu sais, vraiment, là, interchange-moi. Là.
Ouais,
le rôle que je fais, là, ça peut être n'importe qui le prend, là, puis c'est bien correct. Là,
ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis ce spot-là, c'est quand même un sweet spot. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai parti 2 business. Il y en a une que ça fait 4 ans qu'il existe. On est assis dedans. Puis, je veux dire, je suis pas. C'est moi qui réponds à certains emails, mais je suis pas la
c'est
phase
pas
de ça.
Que ça soit toi.
Ça pourrait être n'importe qui répond à ces emails-là. Puis, ça pourrait pas être moi, tu sais. Puis, ça a pris 4 ans à bâtir ça. Puis là, Upika, je suis dedans ou est-ce qu'il n'y a pas de journée ou est-ce que je suis pas en train de faire de quoi puis que je suis pas en train de penser à ça puis qu'il faut que ce soit moi qui le fasse. T'sais.
Faire des samples, là, m'as envoyé une belle photo avec ta machine des années 70 en train de sceller tes samples toi-même avec de la poudre. Ouais. Le monde, ils reçoivent ça, ils le garochent ça dans le fond de leur sac d'entraînement, ils l'utilisent peut-être jamais. Ah, oh, fuck, c'est juste un sample, ça. Ouais. Ils savent pas, toi, t'étais là en bobette le dimanche matin en train de stamper tes
affaires. Ça sent la poudre melon d'eau chez nous, à grandeur.
T'as
là,
les t'sais. Doigts brûlés de colle pis tout.
Ouais.
Ouais, c'est... Ah, fuck, le petit sample.
C'est ça, pas vrai. Mais ouais.
Écoute, les samples sont précieux.
Ah, les samples sont précieux, je le sais. Puis je pense que ça me coûte vraiment plus cher par portion, là, évidemment, moi, pour un sample. Mais je pense que là, puis vous me le direz, ceux qui sont rendus jusqu'à 1h10 du podcast Upika. Si vous voulez, je pense que je veux mettre, parce que là, il y a un 6-pack en vente en ligne. Ouais. Puis je pense que je vais mettre aussi des options de comme 12 packs de portions individuelles puis 24 packs de portions individuelles. Moi, ça va demander plus de temps, sauf qu'en même temps, je pense que c'est vraiment pratique, ça.
Mais peut-être que tes auditeurs voudraient aussi avoir juste d'un sac Ziploc. Tu sais, sac Ziploc congélateur, là.
Ouais, ouais, c'est ça qu'ils devraient faire.
Le slide top.
C'est ça qu'ils devraient faire.
Tu pourrais l'écrire à main.
Mes auditeurs, c'est ça qu'ils devraient faire. Ils devraient se faire des échantillons individuels en partant dans leur longue randonnée, mais il y en a qui sont plus... qui veulent plus la simplicité,
j'avoue,
mettons.
J'avoue, c'est ça, c'est que vous autres, à course à pied, dans le fond, toi, quand tu pars 3-4 heures, t'amènes...
Moi, quand je pars en trail, j'amène juste un sample, j'arrive dans un point, dans un point d'eau, oui. J'ouvre ma bouteille, je remplis d'eau, je crisse le sample dedans, c'est plus que sortir ton Ziploc, puis tu sais,
ouais,
compliqué
ouais.
un peu, là.
Mais...
Sauf que l'affaire, c'est que si quelqu'un commande 24...
Sample,
c'est moi qui ai fait. Puis c'est long quand même. Là.
Mais les petits pots de pilules ou des petits pots de suppléments, les gens pourraient mettre ça là-dedans. Puis ouais. quand t'arrives, ouais, tu
ouais.
déverses.
Ouais, si vous voulez trouver une façon, c'est sûr vous avez une façon de faire ça, mettons. Qui est pas des samples.
Parce que PH, il est écœuré de faire des samples.
Parce que PH, pour l'instant, il fait des samples chez eux. Puis il est allé d'écouter des séries Netflix, Brain Dead, en faisant des samples. Hey, merci, man.
Merci à toi.
C'était super intéressant.
Merci. Merci beaucoup.